France Inter, le 7-9. Intervenez.
André Grimaldi, professeur émérite d'endocrinologie, diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, est notre invité jusqu'à 9h. Daniel Messager est avec moi. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et au standard, la parole à Mathieu, Mathieu de Grenoble. Soyez le bienvenu sur Inter. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci pour la qualité de vos émissions et merci de prendre mon appel. Je me permets d'appeler, en fait, je suis jeune médecin, j'ai 30 ans, j'exerce dans un service de psychiatrie dans la région grenobloise, dans un service d'unité de secteur de psychiatrie. Et je rejoins complètement, en fait, le constat fait par le professeur qui est aujourd'hui sur votre plateau. Pour parler de moi sur l'aspect très personnel en un mot, en fait, j'ai déjà fait un burn-out après 6 mois d'exercice. Aujourd'hui, j'en suis à peu près à un an d'exercice en tant que chef d'unité, en tant que responsable. Ça, c'est quelque chose de très particulier, mais en fait, je ne suis pas vraiment responsable de grand-chose, si finalement, au-delà de mes patients. Mais je suis responsable, en fait, d'une unité d'hospitalisation. Et ma décision prise au bout d'un an d'exercice, elle est de quitter cette fonction aujourd'hui. Je quitte cette fonction après un an réalisé à l'âge de 30 ans et au début de ma carrière de médecine, parce que j'estime aujourd'hui que nous ne sommes plus en capacité de réaliser notre travail de la bonne manière. Nous ne sommes ni protégés par l'institution, ni entendus par les personnes qui relèvent plus de la direction de l'hôpital. Au-delà de tout ça, il existe une forme progressive de maltraitance institutionnelle. On se fait des soins de plus en plus rabaissés par rapport à notre idéal ou par rapport à comment on souhaiterait faire les choses. Et ça s'ajoute, cette maltraitance institutionnelle, déjà à nos propres inquiétudes et déjà à nos difficultés, si je puis dire, dans la prise en charge des patients au quotidien. Et ça crée du burn-out, ça crée des difficultés.
Et l'envie de faire autre chose, hein, vous l'avez dit, Mathieu. Merci beaucoup pour cette intervention. Je la transmets à André Grimaldi. On entend la souffrance, une forme de désarroi aussi quant à ses propres idéaux, quant à ce qu'on imaginait être ce métier de médecin, André Grimaldi.
Oui, ces problèmes de burn-out est maintenant récurrent. Il y a des problèmes de mal-être au travail, de dépression. Alors, il y a des études, alors c'est pas propre à la France, hein. Les systèmes de santé, il faut aussi quand même se dire que ça va mal à peu près partout, là. Il y a des études qui montrent une corrélation entre la dépression, le burn-out et la sécurité des soins, c'est-à-dire les erreurs dans les prescriptions ou dans la transmission ou la réalisation de soins. Donc il y a une vraie inquiétude, c'est un vrai sujet. Si vous me demandiez quel est le prochain scandale, le vrai, je ne parle pas de... Un vrai problème, c'est le nombre d'erreurs dans soit la réaction, soit la distribution de traitements.
Les médecins se plantent.
Les médecins, les infirmières dans la distribution, alors pour plein de raisons. Mais il y a une corrélation dans beaucoup d'études entre burn-out et sécurité. Dépression des personnels et sécurité. Alors pas toutes les études, mais en gros 25 sur 30. Alors corrélation n'est pas causalité, hein, donc tout ça, c'est pas facile. Mais ce problème est un problème très important.
Daniel Messager.
Oui, c'est intéressant d'entendre ce médecin parce que vous disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce qui change par rapport à il y a 10 ans? J'ai l'impression, professeur Grimaldi, que ça fait 10 ans effectivement qu'on vous entend parler du malaise dans l'hôpital public. Peut-être ce qui se change aussi, c'est ce qu'on entend maintenant les médecins, effectivement, qui manifestent leur désarroi, leur impossibilité de travailler. On entendait les soignants, les infirmières, les aides-soignants avant. Maintenant, on entend en masse les médecins. Et ça, c'est effectivement un phénomène nouveau depuis quelques années. Alors, j'entendais
balance
tout à l'heure...
Balance ton hosto, le hashtag étant... une micro petite fenêtre sur ce que vous dites, Daniel.
On entendait tout à l'heure que vous disiez, Agnès Buzyn semble avoir entendu, vous attendez son ordonnance, effectivement, si elle a déjà posé le diagnostic, vous attendez l'ordonnance maintenant. Qu'est-ce qui pourrait changer, alors, en termes de quantité, vous l'avez dit, il faudrait une dotation différente selon les services, etc. En termes de qualité aussi, qu'est-ce qui pourrait changer? Parce qu'il y a des pays qui travaillent aussi sur des indices de qualité aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il faut insérer ça en France? De quelle façon?
Professeur Grimaldi.
Alors, la qualité, c'est d'abord deux choses. C'est un travail en équipe. C'est des gens qui peuvent se réunir pour discuter de ce qu'ils font, discuter de chaque cas de patient, quel est le meilleur traitement, et puis pour tirer des bilans d'activité. Quand il y a une erreur, par exemple, on tire les leçons collectives. Il n'y a plus de réunion de travail d'équipe, de moins en moins. Deuxièmement, c'est un nombre suffisant d'une équipe stable, Si vous avez des intérimaires, si l'infirmière passe un jour dans un service puis le lendemain dans un autre service en disant mais il suffit de faire des transmissions écrites, là vous perdez complètement, c'est la stabilité d'une équipe. Il y a des études qui ont été faites sur ça, vous savez, aux USA, en chirurgie vasculaire, des services de bonne qualité, certifiés. Les événements post-opératoires, y compris la mortalité, dans le mois qui suit, peut varier de 1 à 2, 1 à 3. On a cherché quelle est la différence. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est le respect des procédures? Non. Est-ce que c'est le nombre d'événements post-opératoires? Non. C'est la qualité du travail d'équipe. L'infirmière qui dit au chirurgien, ce malade va mal. Il est en train de faire une embolie pulmonaire, il faut qu'il passe en réanimation. Celui-là, il faut le reprendre au bloc opératoire. C'est, on se connaît, on fonctionne ensemble. Et ça, c'est d'une suprême qualité. Si on veut avoir un indice de qualité, demandez à un hôpital combien il a d'intérimaires, combien il a d'infirmières qui changent de service, qui demandent à changer de service. Et là, vous direz s'il y a ça. S'il y a un absentéisme important, c'est que la qualité baisse. Hein, donc ça, c'est pas les indices qui sont le premier critère. Après, il faut quelques indices. Mais surtout ne pas payer à la qualité. C'est ce qu'ont fait les Américains. Ils en reviennent, ils disent, ça ne marche pas.
Il y a, professeur Grimaldi, un nombre incroyable de réactions à vos propos. Depuis 8h20, Delphine, sans langue de bois, hélas, reflet de la réalité. Le constat est tellement juste. Merci, monsieur Grimaldi. Josette Depau, je suis infirmière, mariée à un médecin. Tout ce que dit monsieur Grimaldi est vrai. C'est hallucinant. Pas un jour sans que l'administration de mon hôpital, l'entreprise commerciale, ne me rappelle ce que je leur coûte. Marc, enfin les vrais problèmes de notre système de santé. Merci de parler de ces aberrations. Sophie, je suis atteinte d'une maladie chronique depuis 20 ans, le diabète. J'en ai de plus en plus. C'est hallucinant. Problème de prescription. Un mail un peu différent, il vient d'Antoine. Pourquoi les détracteurs de la tarification à l'activité répètent-ils qu'on veut qu'un hôpital soit rentable? Ne s'agit-il pas simplement de tenir l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie dont le Parlement vote chaque année l'augmentation? Le patient est aussi un assuré social. Professeur ?
Très, très bonne remarque. Effectivement, on n'est pas seulement une tarification d'activité sur un marché. Il y a un budget qui est voté chaque année par l'Assemblée nationale, qui au début était indicatif. Alors, c'est depuis 1995, c'est Alain Juppé qui avait ça, et je ne conteste pas que la représentation nationale dise voilà les sommes qu'on dépense pour la santé. On dépense 11% du produit intérieur brut. Exactement comme l'Allemagne, la Suède, le Japon, le Canada, la Belgique, donc comme les pays riches. Il faut arrêter de dire qu'on dépense plus. Les Américains, c'est 17%, avec un très mauvais système de santé. Les Anglais, c'est 9%, avec un système de santé qui ne donne pas satisfaction. Donc on dépense comme les pays riches. On nous augmente le budget, effectivement, on a augmenté de 2%. Simplement, quand on calcule l'augmentation du coût des médicaments, quand on dit on augmente le nombre d'internes, il faut les payer. Quand on dit on valorise les sages-femmes, il faut les payer. Quand on dit il y a des emprunts à rembourser, quand on dit il y a des locaux à entretenir, les ascenseurs de la Pissapétrière, faut les entretenir. Les ambulances, hein, 80 hectares, 33 bâtiments et des ambulances intérieures. Bon, les dépenses programmées augmentent de 4%. Donc on va augmenter de 2% par rapport à des dépenses programmées de 4%, c'est-à-dire qu'on demande à l'hôpital une économie de 1,6 milliard. Donc on met délibérément, l'Assemblée nationale met délibérément les hôpitaux en déficit. Et elle leur donne quoi comme moyen d'action? Moi, si on me donne une dotation, je dis, écoutez, ces malades, au lieu de les hospitaliser, on va les voir en ambulatoire. Mais on me dit, non, il y a des tarifs. Vous pouvez pas. Et pour le cancer, aujourd'hui, avant, le cancer était malade, était hospitalisé. Aujourd'hui, ils peuvent prendre des comprimés. Ah oui, mais vous n'avez pas les tarifs. Donc, on est dans un système fou. Hein, on nous dit, faut diminuer les dépenses, mais vous n'avez pas les moyens d'agir.
On retourne au standard, professeur Grimaldi. Marie-Sophie, bonjour.
Bonjour, je voudrais juste apporter un témoignage. Je suis hospitalisée chaque mois. À chaque admission, le personnel soignant me redemande mes informations personnelles, adresse, poids, taille, personne de confiance, type de logement, nombre d'enfants, numéro de téléphone. Le tout prend à peu près un quart d'heure. Ces informations ne varient pas d'une visite à l'autre et du coup je m'étonne de cette perte de temps à l'heure de l'informatique parce qu'on pourrait conserver ces données avec le consentement du patient et dans aucune entreprise normale on ne maintiendrait une telle pratique, un tel calcul. on rationaliserait en fait de façon à ce que les infirmières puissent consacrer leur temps aux soins davantage qu'à l'administratif, qui n'a aucun sens dans ce cas-là.
Merci Marie-Sophie pour ce témoignage. Un mot Daniel Messager,
oui,
puis le
là,
professeur
Guénaldi. Là on parle de perte de temps, et en ce qui concerne la perte d'argent, c'est aussi de refaire tous les examens. C'est aussi qu'à chaque fois que la personne est réhospitalisée, on lui redemande les radios, la prise de sang, les examens biologiques, etc. etc. Alors ça aussi Agnès Buzyn l'a identifié, mais à quel moment est-ce qu'on va dire stop ?
André Grimaldi.
Donc Agnès Buzyn a dit de manière un peu provocante, un tiers des prescriptions, ça concerne l'hôpital comme la ville, sont inutiles ou injustifiées. Bon. Alors je ne sais pas le tiers, on peut discuter, mais en gros c'est vrai. Elle a raison, et on le dit dans notre appel. Mais quelle est la politique ? Ça fait des années qu'on dit ça aussi. quelle est la politique mise en œuvre pour ça ? C'est-à-dire pour la pertinence des soins. Aujourd'hui, vous faites une échographie de la thyroïde. Vous trouvez des nodules ? Eh ben, vous enlevez la thyroïde. Parce que s'il y avait un micro-cancer, et donc il y a 3 millions de gens qui sont sous lévothyrox. Et si vous êtes sous lévothyrox, il faut faire des TSH. Et comme vous êtes un médecin généreux, que c'est la Sécu qui paye, ben, vous mettez en plus T3 libre, T4 libre et en avant. Bon. Donc il y a, écoutez, on prescrit en France, par exemple, le dosage de la vitamine D. Alors, nous sommes tous carencés, je pense à France Inter aussi,
oui,
en vitamine D.
Surtout à France Inter.
Bon, surtout à France Inter. Mais non seulement on le dose, mais on le redose. Ce simple examen, c'est plus de 100 millions pour la Sécu. Okay. Et dans la Sécu, on ne se dit pas, ben, la Sécurité sociale doit rembourser ce qui relève de la solidarité. Est-ce qu'on a un débat sur qu'est-ce qui relève de la solidarité, qu'est-ce qui ne relève pas ? L'homéopathie, il y a des gens qui sont très pour, et ça leur fait du bien. Moi, ça ne me gêne pas. Est-ce qu'on doit le rembourser ? Est-ce que ça fait partie de la solidarité ? Bon, vous me direz que ce n'est que 200 millions, mais enfin quand même. Les cures thermales, pareil. Alors, les cures thermales, ça ne se consomme que sur place, parce que vous savez que si on transporte l'eau, elle perd ses propriétés. Donc, vous êtes obligé d'y aller, et ça n'a de bénéfice que si vous y allez au moins 3 fois. Ben, ça fait quand même 400 millions pour la Sécu. Mais vous me direz, c'est de l'emploi. De même, la homéopathie, c'est de l'emploi. Mais la Sécu, elle n'est pas faite pour soutenir l'emploi. On peut avoir un budget à part. Bon, et puis on peut multiplier ça, les gens refusent des génériques. Bon, moi, je ne prends que des génériques, mais après tout, c'est leur droit. Mais est-ce que nous tous, on doit payer des impôts pour ceux qui refusent le générique, disons qu'après une assurance qui serait une assurance supplémentaire. Enfin, il y a beaucoup de choses, c'est une réforme qui vient de loin qu'il faut faire.
Elle va être faite d'après vous. Ben, c'est ma dernière question.
Espérons. Et nous sommes prêts à aider la ministre. C'est ça que ça veut dire. On voudrait bien qu'elle dise pas seulement comme avant. Faites-moi confiance. On voudrait bien être partie prenante. Alors quand je dis nous, hein, c'est pas moi. C'est les professionnels
compris,
de santé, des différents métiers, qui connaissent bien leur métier, qui voudraient travailler avec des économistes, des gestionnaires, pour dire ensemble, pas les uns contre les autres, quel est le meilleur système pour un service public solidaire.
Restez avec nous, André Grimaldi, il est 8h55, la parole dans quelques instants à François Morel.